Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Terrible série dans l'Essonne, en région parisienne. Deux rixes entre bandes rivales ont fait deux morts en moins de 24 heures. Des adolescents de 13 et 14 ans tués à l'arme blanche. Une centaine de policiers supplémentaires ont été déployés ce soir dans le département pour éviter de nouveaux affrontements. Nous ferons le point sur les enquêtes et nous irons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également ce soir, la mise en examen pour viol de Gérard Depardieu. Une jeune comédienne l'accuse de l'avoir agressée à l'été 2018, ce que nie catégoriquement le célèbre acteur. Après la Côte d'Azur, un confinement semble se dessiner à Dunkerque où l'épidémie continue de flamber. Le maire de la ville devrait l'éviter, mais la population, elle, s'y est déjà résignée. C'est le scénario que redoutaient les épidémiologistes. Sous l'effet des variants, les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse dans l'ensemble du pays. Plus de 3400 malades en réanimation, du jamais vu depuis décembre. Emmanuel Macron à la ferme aujourd'hui, faute de salon de l'agriculture, rencontre avec des producteurs sur fond de tension commerciale avec la grande distribution. La météo, elle sera très agréable demain. Le printemps s'installe avec une journée radieuse et des températures en hausse, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en légère hausse, plus 0,22% à 5779 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. La vaccination sera l'une des clés pour faire repartir le marché de l'emploi. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Franck Ribouot, le président du groupe d'intérim Randstad. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un mois après l'affaire Youri, grièvement blessé à Paris, les règlements de compte entre bandes rivales ont donc cette fois coûté la vie à deux jeunes adolescents en moins de 24 heures et à chaque fois dans le même département, l'Essonne en région parisienne. Justin Morin, on va revenir avec vous sur ces deux rixes mortelles. Commençons avec la dernière en date. Elle s'est déroulée en fin d'après-midi à Boussy-Saint-Antoine.
Oui, il est aux alentours de 17h quand une soixantaine de jeunes se retrouvent devant la piscine de cette commune de banlieue parisienne. Il y a là deux bandes, l'une vient d'Épinay-sous-Sénart, l'autre de Quincy-sous-Sénart. Boussy-Saint-Georges est entre les deux. Ils sont là pour en découdre. Pourquoi ? On ne le sait pas encore, mais l'affrontement est violent. Certains sont venus avec des armes blanches. Trois personnes sont blessées, des mineurs sont impliqués. Parmi les victimes, deux collégiens de 13 ans. Ce sont les plus sérieusement touchés. L'un s'est pris un coup de couteau au ventre. Il meurt lors de son transfert en hélicoptère vers l'hôpital. L'autre, blessé au cou, a été pris en charge. D'après nos informations, il devrait s'en sortir. Après cet affrontement violent, 6 personnes ont été interpellées. On vient d'apprendre qu'une 7e personne, un mineur, s'est rendue à la police et s'est présentée comme l'auteur des coups de couteau.
Justin, le deuxième affrontement a eu lieu, lui, hier, à une quarantaine de kilomètres de là, à Saint-Chéron, toujours dans l'Essonne. Et cette fois, c'est une adolescente de 14 ans qui a succombé à ses blessures.
Oui, 24 heures plus tôt, hier après-midi, devant le collège de cette petite commune rurale de 5000 habitants, pas vraiment connue pour ses actes de violence, une bande de jeunes est venue de la ville voisine de Dourdan pour régler des comptes avec une autre bande de Saint-Chéron. Ils sont vêtus de noir, encapuchonnés. Cette fois, une dizaine de personnes s'affrontent, toujours des mineurs pour la plupart. L'un d'eux porte un Opinel. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, une adolescente de 14 ans, tente de s'interposer. Elle est touchée au ventre, mais décède une fois arrivée à l'hôpital. L'auteur du coup de couteau et ses complices s'enfuient. Leur signalement permet de vite les repérer. Trois d'entre eux sont d'abord interpellés à la gare d'une commune voisine. Trois jeunes de 13 ans. Trois autres adolescents se sont rendus, accompagnés par leurs parents. En tout, 6 mineurs sont en garde à vue ce soir. L'un d'eux, âgé de 16 ans, a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel. L'enquête ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans se poursuit et doit permettre d'identifier les autres victimes.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Prenons maintenant la direction de Saint-Chéron, là où cet ado de 14 ans a trouvé la mort. Une petite ville a priori sans histoire, où c'est la stupéfaction ce soir, Johanna Chabas.
Oui, l'ambiance est très lourde ici. Tout le monde en parle, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Les jeunes, surtout, sont marqués. Crystal, à 10 ans, vit à côté du collège. Comme beaucoup d'habitants, elle avait déjà croisé la victime, toujours souriante et au fort caractère. Depuis la rixe, Crystal ne veut plus être seule dans la rue.
Même si on n'est pas mêlé à des choses comme ça, on a quand même peur de se faire attaquer ou des personnes qui arrivent, tout ça. Du coup, bah, le matin, quand tu vas à l'école, c'est pas très rassurant, surtout que tu passes à l'endroit où la fille, bah, elle a été attaquée. Donc, tu dis, pourquoi pas ça m'arrivera à moi.
Elle demande maintenant à sa mère, Aurélie, de l'accompagner partout. Cette maman est aussi sous le choc. Elle n'avait jamais vu de bande rivale et était persuadée qu'un tel incident n'était pas possible ici, dans cette petite ville paisible au bord des bois.
Je suis hyper surprise. Pour moi, ça restait dans tout ce qu'on entend aux actualités, sur toutes les villes où il y a des cités avec des bandes rivales, etc. Mais effectivement, je ne pensais pas que ça viendrait jusqu'à chez nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui jusque-là m'inquiétait. Maintenant un peu plus, parce que du coup je sais que voilà, ça existe, même à Saint-Chéran.
Alors si les rixes sont rares ici, elles sont un phénomène grandissant dans le département. Sur 146 en Ile-de-France, la moitié ont eu lieu dans l'Essonne l'année dernière.
Johanna Chabas à Saint-Chéran pour Europe 1. Johanna qui a recueilli la première réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu ce soir à Dourdan, d'où sont originaires les jeunes impliqués dans le drame d'hier.
J'ai demandé à une centaine de policiers et de gendarmes supplémentaires de venir dans le département, pour que les choses puissent s'apaiser, qu'il ne puisse pas y avoir de répliques ou de confrontations nouvelles. Nous réunirons les préfets d'Île-de-France en fin de semaine, puisque c'est bien en Île-de-France que 90% de ces combats entre de jeunes adolescents existent et parfois se terminent très dramatiquement. Et puis bien sûr, redire qu'avec l'autorité de l'État, avec les collectivités, c'est aussi le rôle parental qui est important, puisque quand on a des enfants de 13 ou 14 ans qui ont déjà parfois connu d'ailleurs des méfaits avec la police ou la gendarmerie, c'est bien sûr l'autorité des parents qu'il faut remettre en avant et redire évidemment à quel point, avec l'éducation nationale, avec les collectivités locales, nous devons continuer à faire société ensemble et à rappeler un certain nombre d'actions que nous mettons.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, notait qu'à ce sujet, celui de ces rixes meurtrières entre bandes rivales qui se multiplient, Alain Bauer sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1. Le professeur en criminologie répondra à partir de 7h40 aux questions de Mathieu Béliard. Dans l'actualité judiciaire, on a appris ce soir que Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre pour viol et agression sexuelle. C'est une jeune comédienne qui accuse l'acteur de l'avoir agressé à l'été 2018, Marion Dubreuil.
Oui, les faits se seraient déroulés au domicile parisien de Gérard Depardieu, un hôtel particulier du 6e arrondissement, les 7 et 13 août 2018, en marge d'une répétition informelle pour une pièce de théâtre avec la plaignante. À l'époque, Gérard Depardieu avait reconnu, par la voix de son avocat, qu'il connaissait la jeune femme, mais il avait nié les viols et les agressions sexuelles. L'acteur s'était dit ébranlé par ces accusations qui seraient, je cite, « tout le contraire de sa personnalité ». Sa position n'a pas varié, l'acteur conteste toujours les faits aujourd'hui. Dans un premier temps, en juin 2019, l'enquête avait été classée sans suite. Après 9 mois d'investigation, le parquet de Paris avait tout simplement expliqué qu'il ne pouvait pas caractériser les infractions dénoncées. La comédienne avait finalement obtenu l'ouverture d'une information judiciaire l'été dernier via une plainte avec constitution de partie civile. La juge d'instruction a estimé, elle, qu'il y avait bien des indices graves et concordants à l'encontre de Gérard Depardieu pour justifier sa mise en examen pour viol et agression sexuelle.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30.
À qui le tour ? Après la Côte d'Azur, confinée au moins pour les 2 prochains week-ends, de nouvelles restrictions locales devraient être annoncées à Dunkerque. L'épidémie continue d'y flamber avec un taux d'incidence près de 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Autant dire qu'il est grand temps de réagir. Le Premier ministre Jean Castex veut de nouvelles mesures pour freiner le virus. Il s'est entretenu ce matin avec le maire de Dunkerque qui s'accroche à un dernier espoir, Lionel Gougelot.
Oui, et ce dernier espoir pour éviter un scénario à la niçoise, c'est un changement radical dans les comportements que prône Patrice Vergriete. Zéro rassemblement, zéro regroupement en famille ou au travail, dépistage, masque généralisé pour échapper à une mise sous cloche.
Si l'État devait venir nous annoncer des confinements en tant qu'élu local, nous n'allons pas nous y opposer. On peut comprendre un certain nombre de mesures. Ce n'est pas notre proposition. Nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise.
Vaccination et gestes barrières sont les seuls moyens d'éviter un confinement qui, même limité au week-end, serait mal vécu par la population, selon le docteur Guadin, médecin généraliste à Dunkerque.
Le virus, il circule dans la semaine, il ne circule pas que le samedi dimanche, monsieur. Donc il faut demander aux gens de respecter les gestes barrières, de se priver de convivialité pendant 15 jours, 3 semaines, pour qu'on puisse passer la vague au mieux et qu'on ne soit pas, encore une fois, confiné complètement.
Reste parmi les habitants un certain fatalisme, parfois teinté de colère. Laetitia, commerçante, exaspérée par le comportement des gens sur la plage de Malo.
Vu le monde qu'il y avait ce week-end sur la plage de Malo, c'est affolant. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il y avait beaucoup de cas à Dunkerque. Et en fait, c'est beaucoup des gens de l'île qui sont venus. Et ils étaient tous collés, sans masque. Moi, je comprends pas. Donc, ils ont raison de confiner le week-end, en fait. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi.
Verdict annoncé demain par Olivier Véran, mais certains élus élus regrettent ici qu'on ait déjà perdu beaucoup de temps.
Lionel Gougelot à Dunkerque pour Europe 1. Dunkerque, Alpes-Maritimes, Moselle, on vous parle depuis plusieurs jours de ces territoires confrontés à un brusque rebond de contamination, mais ce ne sont malheureusement pas les seuls. Alors que l'épidémie semblait légèrement reculer en France la semaine dernière, le vent semble avoir tourné depuis quelques jours. La barre des 85 000 morts a été dépassée ce soir et plus de 3 400 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis début décembre, Anne Le Gall.
Oui, il y a des tensions en réanimation de plus en plus marquées en région PACA, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le Rhône, en Moselle, où les variants sud-africains et brésiliens sont très présents, en Île-de-France, où les entrées en réanimation sont sur un plateau montant. Le directeur des hôpitaux de Paris a d'ailleurs parlé de semaines de vérité. On voit aussi que le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis presque une semaine. Ça ne s'était pas vu depuis le début du mois. Et que, d'un autre côté, ça c'est plutôt rassurant, le R effectif, le nombre de personnes contaminées par un cas positif reste en dessous de 1 au niveau national. Alors, que conclure ? Faut-il être pessimiste face à cette tendance à la hausse ? En réalité, on manque encore de recul pour conclure, mais il est vrai que cette hausse correspond à des projections qui ont été faites par les épidémiologistes et qu'au niveau du calendrier, elles concordent avec la propagation du variant britannique. Ce variant britannique est déjà majoritaire dans certains départements. Il devrait vraisemblablement le devenir la semaine prochaine au niveau national. On se situe donc effectivement à un possible moment de bascule.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et pour éteindre au plus vite les foyers de contamination qui se déclarent ici ou là, Emmanuel Macron privilégie désormais une approche régionalisée. Voilà ce qu'a confié le chef de l'État à des élus. Une stratégie qui est en revanche à sens unique, car selon nos informations, l'Élysée refuse pour l'heure d'envisager lever certaines restrictions dans les territoires les moins touchés, comme le demandent par exemple des élus bretons. Le président qui était aujourd'hui en Côte d'Or dans une ferme familiale pour un ersatz de Salon de l'agriculture. L'édition 2021 qui aurait dû se tenir en ce moment, vous le savez, a été annulée en raison de l'épidémie. Une première depuis près de 60 ans. Alors comme les agriculteurs n'ont pas pu monter à Paris, c'est Emmanuel Macron qui est venu à eux. L'occasion de parler des difficultés du monde agricole et des négociations en cours avec la grande distribution, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, l'Élysée avait promis soutien et fermeté. Ce sont bien les messages qu'Emmanuel Macron est venu passer dans cette ferme de Côte d'Or. Soutien aux agriculteurs, merci de nourrir la France, a martelé le chef de l'État. Et fermeté face aux négociations commerciales trop agressives.
Au moment où on a cette bonne négo sur le lait, aujourd'hui même, des grands distributeurs demandent moins 10% à des producteurs de charcuterie. Du jour au lendemain, un rétroactif au 1er octobre. Comment vous voulez que ça tienne une seule seconde ? On se fiche du monde quand on continue de faire ça. On fait, en quelque sorte, des petits efforts sur des couloirs de nage et on continue à détruire de la valeur ailleurs.
Emmanuel Macron qui cible la grande distribution, car toute la filière agroalimentaire le sait, ce sont les agriculteurs les victimes de ces pratiques. Un constat partagé par Serge Papin, l'ancien patron de Système U. Il remettra prochainement un rapport avec plusieurs propositions.
Si on ne veut pas que l'agriculture disparaissent. Il faut qu'on arrive vers une coopération plutôt qu'une confrontation. Et pour arriver à ça, c'est la pluriannualité des contrats qui le fera. Et donc cette recommandation-là va être aussi à l'ordre du jour dans quelques temps.
Des propositions et une volonté politique affichée par Emmanuel Macron qui prouve que la loi Egalim votée en 2018 pour protéger les petits producteurs a déjà atteint ses limites.
Jean-Rémy Baudeau à Étol en Côte d'Or pour Europe 1, votre radio qui, en raison de l'annulation du Salon de l'agriculture, va du 1er au 7 mars s'installer dans le Salon des agriculteurs. Au programme émission délocalisée au plus près de ceux qui nous font manger. C'était une mesure réclamée de longue date par les associations féministes pour lutter contre la précarité menstruelle. Les protections périodiques seront gratuites à la rentrée prochaine pour toutes les étudiantes, annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Alors concrètement, les personnes qui le souhaitent pourront obtenir des tampons ou des serviettes hygiéniques dans des distributeurs qui seront installés dans les universités. 1500 doivent être opérationnels d'ici septembre. Le Haut Conseil sur le climat, l'instance indépendante créée par Emmanuel Macron pour évaluer l'action publique, juge insuffisantes les mesures du projet de loi climat. Portée réduite, manque d'ambition, le verdict des experts est sans appel. Ce texte n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif de 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Haut Conseil compte désormais sur le Parlement pour rectifier le tir. Et pendant ce temps-là, Total annonce vouloir produire plus de pétrole et de gaz. Le groupe français n'anticipe pas de baisse de la demande en hydrocarbures avant 2030. En conséquence, Total envisage d'augmenter d'un tiers sa production jusqu'à 4 millions de barils par jour. Aux États-Unis, Tiger Woods est ce soir hospitalisé suite à un accident de la route près de Los Angeles. Selon son agent, le golfeur serait en train d'être opéré pour de multiples blessures aux jambes. Il a dû être extrait de l'épave par les pompiers à l'aide de pinces de désincarcération. Les images sont impressionnantes. Le véhicule aurait fait plusieurs tonneaux et est complètement détruit. Tiger Woods avait déjà été victime d'un grave accident de la route en 2009. C'était en Floride et suite à une dispute conjugale. On termine avec le foot et ce match amical que l'on suit ce soir sur Europe 1. L'équipe de France féminine affronte en ce moment la Suisse et ça se passe au stade Saint-Symphorien à Metz où on vous retrouve en direct, Patrick Muller.
Ah, effectivement Julien, 3 minutes et quelques secondes dans cette deuxième période, 0-0. Cette équipe de France qui est tenue en échec par la Suisse pour l'instant dans cet acte 2 de cette double confrontation amicale. Alors c'est moins parce que les Suisses sont éventuellement dominantes que parce que cette équipe de France ne trouve pas la clé pour l'instant sur le plan offensif. Une équipe de France un petit peu new look, remaniée, rajeunie, qui a du mal à débloquer la situation sur le front de l'attaque, même s'il y a une belle situation tout à l'heure en fin de première mi-temps à la 37e minute avec ce bon ballon au premier poteau pour Toletti, la revenante dans cette équipe 4 ans après son grand retour pour la joueuse de l'Evente qui n'a pas trouvé la clé et en conséquence eh bien Corinne Diacre, pardonnez-moi, la sélection essaye de trouver de la solution, des solutions en impulsant un petit peu de sang neuf dans cette équipe. Ça a été le cas avec un double changement. L'entrée en jeu de Cascarino à la place de Matteo et celle de Sandy Baltimore en lieu et place de Amel Majri. 4 minutes dans cette seconde période. 0-0 toujours entre la France et la Suisse.
Merci Patrick Muller en direct de Metz pour Europe 1. Patrick que l'on retrouvera à la fin de cette édition pour vivre les derniers instants de cette rencontre. On passe à la météo. Anissa Dadi, le temps demain sera marqué par un début de journée avec quelques grisailles matinales.
Oui, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, Julien, nous aurons des brouillards demain matin. Alors, des brouillards nombreux, mais pas très épais. Dans le sud-ouest, de la Gironde jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, sur la Corse, la Côte d'Azur et en Alsace-Lorraine. Voilà, dans toutes ces régions, là aussi, nous aurons des petites grisailles matinales qui seront certes très nombreuses, pas très épaisses, mais surtout qui vont se dissiper très rapidement puisque dans l'après-midi, le ciel va se dégager. Il fait beau presque partout puisque nous avons encore quelques nuages épais qui s'accrochent dans le ciel des Cévennes avec moins de pluie. Hein, le temps redevient sec sur le Languedoc-Roussillon, mais toujours le vent d'autant qui souffle jusqu'à 70 km/h. Sur les côtes de la Manche, le vent du sud-sud-ouest, là aussi, va souffler encore demain. Et puis nous aurons quelques nuages gris qui vont s'accrocher sur la pointe bretonne et peut-être apporter quelques gouttes. Partout ailleurs, c'est du très beau temps au programme avec des températures un petit peu plus fraîches demain matin dans le Grand Est avec 2 à 6 degrés, 6 à 10 partout ailleurs et puis au meilleur de la journée, comptez 13 à 22 degrés. Nous aurons 13 à Vannes, 15 pour Brest et Montpellier, 17 à Lille, Nantes et Marseille, 18 pour Bastia et Nancy, il fait doux, hein. 19 degrés à Paris et à Lyon, 21 à Biarritz et 22 la maximale pour Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview Echo. La vaccination sera l'une des clés pour faire repartir le marché de l'emploi. C'est la conviction de l'invité dans quelques minutes d'Emmanuel Duteil, Franck Ribuot, le président du groupe d'intérim Randstad. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Les marchés ont été nerveux aujourd'hui à Wall Street avec des valeurs technologiques qui sont restées sous pression.
Oui, le Dow Jones résiste en hausse vraiment symbolique de 0,04%, 31 535 points. Le Nasdaq lui perd encore 0,5%, 13 465 points. Les marchés étaient très mal partis, mais Jérôme Powell a réussi en partie à les rassurer. L'intervention du patron de la Fed était très attendue devant le Sénat et il a, comme prévu, promis que la politique de la Banque centrale américaine allait rester ultra accommodante. Il a minimisé aussi les risques de flambée inflationniste. Alors les stars de la tech parviennent à limiter la casse. Apple perd 0,1%, Microsoft moins 0,5%, Amazon plus 0,5%, Tesla perd encore 2% après sa chute hier. L'action du constructeur automobile semble souffrir aussi du plongeon du Bitcoin dans lequel il a massivement investi récemment. Le Bitcoin justement a chuté de 14% en 24 heures. Il retombe à 46 000 $, toujours beaucoup de spéculation. L'euro, lui, se contente d'une baisse de 0,1%, 1,2146 $.
Le marché parisien a plutôt bien résisté à la nervosité de Wall Street. Il termine en légère hausse ce soir.
Oui, le CAC 40 gagne un petit 0,22%, 5 779 $. Marché soutenu comme hier par l'industrie du voyage. La perspective d'une levée progressive des restrictions au Royaume-Uni donne de l'air à Air France KLM qui gagne 2,6%. ADP, aéroport de Paris, plus 4,9%. Ça monte aussi pour Airbus, plus 3,3%. Pour Accor, plus 2,8%. Et puis ces espoirs de reprise profite aussi à l'immobilier. Unibail, Rodamco, Westfield et Klépierre, qui exploitent des centres commerciaux, bondissent de plus de 2%.
En revanche, les valeurs technologiques européennes n'échappent pas au mouvement de baisse qui frappe le secteur à Wall Street.
Oui, c'est compliqué aussi pour le secteur à Paris. Dassault Systèmes perd 2%. Repli également pour les spécialistes des semi-conducteurs, ST Micro et Soitec. Soitec qui plonge de plus de 5%. Les marchés européens ont terminé la journée dans le désordre. Francfort perd 0,6%, mais Londres gagne 0,2%, plus 1,7% pour Madrid. Milan, moins 0,3%. Amsterdam, moins 1,1%. Et le CAC 40 termine en hausse de 0,2%, 5 779 $.
Merci beaucoup, Claire Lemaître de Boursier.com. Et à demain, Claire. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Franck Ribiot, un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupe Randstad, groupe bien connu pour l'intérim en Europe et notamment en France. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler du marché de l'emploi. Ma première question va être extrêmement simple. Comment va en ce moment ce marché de l'emploi ?
Je pense qu'on est en face d'un marché qui va être en deux temps. Un marché qui va être au premier semestre sur la même dynamique que 2020. Et un second semestre qui sera pour le coup beaucoup plus dynamique avec un espoir de généralisation du vaccin et les beaux jours qui vont arriver.
C'est-à-dire que dans vos discussions avec les entreprises, vous sentez aujourd'hui un attentisme qui pourrait très vite se régler grâce au vaccin ?
Dans l'ensemble de nos discussions avec nos clients, on sent un certain besoin d'optimisme. On sent aussi beaucoup de plans de croissance qui sont mis en place, mais dont le démarrage ne sera fait que plus tard dans l'année. Donc on a beaucoup de discussions autour de ce à quoi va ressembler la fin de 2021 et où on va pouvoir se projeter pour pouvoir recruter justement les profils dont ces sociétés ont besoin. Et je pense que c'est juste un phénomène d'attente et vraiment avec l'attente de ce vaccin et l'attente...
Mais de ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que le vaccin est une des clés.
Oui, le vaccin est une des clés. Il ne faut pas oublier aussi qu'on vit dans un monde qui est très global et quand je regarde l'ensemble des pays du groupe Randstad, pour le coup, on voit vraiment un redémarrage dans une grande partie des pays avec un mois de janvier en croissance par rapport à un mois de janvier 2020, pour le coup, qui était une période sans Covid. Donc on ne vit pas qu'en France, on vit aussi dans un monde qui est globalisé et au niveau global, on voit que les économies repartent.
Autre point très intéressant et qui peut paraître complètement fou, quand on regarde le nombre d'offres d'emploi aujourd'hui disponibles, elles restent à un niveau très élevé. Vous le confirmez ?
Oui, je le confirme. On vit un paradoxe sur le marché de l'emploi, en fait. Il y a un nombre de demandeurs d'emploi qui n'a jamais été aussi nombreux. Et pourtant, on voit les mêmes difficultés de recrutement qu'avant crise. Dès qu'un poste, en fait, nécessite des qualifications qui sont particulières. On peut donner plein de types de postes, hein, aussi bien en col bleu qu'en col blanc. Mais cette pénurie ou cette difficulté de recrutement existait avant la crise et elle existe encore aujourd'hui. Tourneurs, fraiseurs, soudeurs, personnel soignant. On parle beaucoup de la cybersécurité, par exemple, des opérateurs en fibre télécom, des comptables. Donc, on voit vraiment des cols blancs et des cols bleus. Et les demandes sont vraiment très importantes et elles ne vont faire que s'accentuer au fur et à mesure des mois.
Si nous avons eu notamment envie de vous appeler ce soir, c'est que vous avez fait paraître, il y a de cela quelques jours, une tribune dans le journal Les Échos qui, justement, allait sur ce terrain en disant « Il faut aller très fort, très vite sur de la formation ciblée au plus près des territoires pour transformer tous ces gens qui sont sans emploi dans des fonctions où l'on cherche, justement, des personnes employables. » J'ai l'impression que cette idée, on l'a dit 1000 fois, mais personne n'arrive à la réaliser.
Alors, on arrive à la réaliser. On arrive à la réaliser, nous, au sein du groupe Randstad, puisqu'on fait énormément de formations tous les ans. On dépense à peu près 50 millions d'euros en formation pour des formations pour 35 000 salariés. Alors sur ces 35 000 salariés, il y a énormément de formations qui sont des formations basiques et nécessaires pour faire un certain nombre de métiers. Mais par contre, on a plus de 4 000 personnes qui sont formées, et là je parle d'intérimaires ou de CDI intérimaires, qui sont formées spécifiquement pour des métiers spécifiques pour certains de nos clients. Donc c'est possible de le faire. Ça existe et ça peut être fait à grande échelle si tout le monde se met autour de la table et peut en discuter.
Oui, mais on fait comment ? De façon là encore très concrète pour le faire à grande échelle ?
Très concrètement, il faut passer par de l'accompagnement. Donc tout ce qui... nous avons créé, nous, au sein du groupe Randstad, une entité qui s'appelle le Centre de gestion des compétences. Le Centre de gestion des compétences est un service RH, en fait, pour nos CDI intérimaires où on fait des entretiens de carrière et on peut définir avec eux l'ensemble des compétences et non pas des métiers, et j'insiste là-dessus, des compétences dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer et changer potentiellement de rôle sur un bassin d'emploi. Et donc ce changement en fait d'une approche par métier à une approche par compétence, qui est très difficile à organiser au niveau national, devient beaucoup plus possible quand on regarde un territoire ou un bassin d'emploi et avec un accompagnement et une projection sur 6 mois, une bonne connaissance du tissu d'entreprise de la région, on peut organiser justement des passerelles et organiser des formations qui permettent aux gens de bouger d'une société à une autre.
Mais ça, sur le papier, ça paraît une fois de plus très facile, mais on sait qu'il y a deux énormes problèmes. Le premier, c'est celui de la mobilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômeurs dans des zones où il y a très peu de métiers. Et ça, vous ne faites pas bouger les gens si facilement quand on a réussi à acquérir sa maison ou qu'on est en couple et que l'un a quand même du travail et pas l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, par exemple, de bouger.
La mobilité en France est effectivement un sujet important, pas uniquement pour les maisons, mais aussi pour des raisons de famille et d'aide pour les enfants, par exemple. Mais pour la grande majorité des métiers que nous avons, il est possible d'organiser des transferts de personnes d'un métier à un autre sur le bassin d'emploi. J'en suis absolument persuadé. Nous, on le voit tous les jours. On est capable de recruter et de faire des montées en charge assez fortes sur des bassins d'emploi qui sont pour le coup pénuriques. J'étais il n'y a pas longtemps, par exemple, du côté d'Angers, qui est connu pour être une région avec un taux de chômage qui est assez bas, et avec des montées en charge de clients qui passaient de 200 à 450 intérimaires, par exemple, et on est capable de les sourcer en faisant justement de la formation en amont de ces demandes, parce qu'on a une très bonne connaissance du bassin, on a une très bonne connaissance des flux et des périodes, et on peut préparer les gens pour pouvoir les basculer d'un métier à un autre et d'une société à une autre en avance.
Mais est-ce que tout le monde peut être formé ? Parce que pareil, quand on regarde la tessature des chômeurs, c'est quand même pas tout le temps des gens qui peuvent basculer.
Il faut travailler en fait sur des convergences de compétences. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver des... Alors je vais utiliser le mot cluster qui n'est pas un bon mot en cette période à utiliser, mais il faut utiliser en fait des clusters de compétences et voir justement quelles sont les compétences qui peuvent être transférables et pouvoir créer les passerelles. Je peux vous donner des exemples. Et je pense que c'est là où il faut que les pouvoirs publics, nous, les acteurs privés, nous mettions ensemble pour pouvoir, et les universités, nous mettions ensemble pour pouvoir justement créer ces passerelles. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres de formation. Il n'y a pas énormément d'identification des passerelles possibles pour qu'un comptable, par exemple aujourd'hui, se disent, ben moi, si j'augmente mes compétences de une ou deux, ben je peux devenir, par exemple, data scientist. Ça veut dire quoi, ça, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation? À mon avis, le sujet est là, et c'est vraiment un sujet de création de passerelles plus qu'un sujet de formation.
Eh bien, merci beaucoup, Franck Ribiot, le président du groupe Randstad, d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez réparation de voiture avec votre invité Thierry Cinquin, président de Feu Vert, le numéro 2 du marché. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération qui révèle cette information inquiétante. Le plus grand piratage de données en France, 500 000 patients à nu, titre le journal. Le numéro de sécu, adresse, téléphone, grossesse, cancer, séropositivité, les informations sensibles issues d'une trentaine de laboratoires ont été divulguées la semaine dernière sur Internet. Initialement diffusées sur le dark web, ces données hautement confidentielles circulent désormais sur les réseaux sociaux. Une fuite d'une gravité inédite, conséquence d'un piratage resté trop longtemps secret, piratage d'un logiciel obsolète utilisé par des dizaines de laboratoires d'analyse, révèle Libération. Bitcoin, les dessous d'un marché piège, titre pour sa part Les Échos. Claire Lemaître nous en parlait il y a quelques minutes. Une violente correction sur les marchés a fait perdre aujourd'hui jusqu'à 15% à la crypto-monnaie, alors qu'elle avait progressé de 400% l'année passée. Un envol du Bitcoin qui a fait bondir par la même occasion le nombre d'escroqueries liées à ces monnaies virtuelles. Bref, l'or des millennials, comme est surnommé le Bitcoin, perd de son éclat et semble loin d'être une valeur refuge, écrit le journal économique. Et comme promis, on conclut ce journal de la nuit avec le foot et ce match amical entre l'équipe de France féminine et la Suisse. Est-ce qu'il y a des buts, Patrick Muller?
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Patrick Muller, on est en ligne avec vous. Vous êtes en direct du Stade Saint-Symphorien à Metz pour ce match amical entre l'équipe de France féminine et la Suisse. Est-ce que les Bleus ont fini par ouvrir le score?
Malheureusement non. 63 minutes et 0-0 toujours dans cette rencontre. Les Françaises qui butent sur la gardienne suisse. Pour l'instant, il y a une double situation tout à l'heure à la 57e avec notamment cette frappe en se retournant de Melvin Mallard. Et dans le prolongement, un corner et cette tête de Wendy Renard, la défenseur, qui était montée aux avant-postes. Et là aussi, une claquette de la portière suisse. Les Françaises dominent assez nettement dans cette deuxième période, mais pour l'instant ne trouvent pas l'ouverture face à des Suissesses valeureuses. Les Suissesses 19e au classement FIFA, la France est 3e à ce classement, d'ores et déjà qualifié pour l'Euro en 2022. 64 minutes et 0-0 entre les deux équipes.
Merci beaucoup Patrick Muller, en direct de Metz pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir. Quand j'entends le stade Saint-Symphorien, j'adore.
C'est dur à prononcer.
Oui, c'est dur à prononcer, mais j'aime beaucoup ce club de Metz. Vous voyez, c'est un club valeureux avec un entraîneur, je parle du football bien évidemment, monsieur Antonetti qui est à la tête de ce club
et qui fait des belles choses depuis qu'il est revenu.
De très belles choses avec une jeune équipe et très plaisante à voir, voilà.
Et vous aussi, vous faites de belles choses à la Libre Antenne 39-21.
On essaye.
Pour vous appeler et témoigner. Et cette Libre Antenne débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et nous, on se retrouve à partir de 23h pour votre flash. À tout de suite.
À tout de suite.